Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International pour sa première émission bimensuelle du mois de février consacrée à la promotion et à la défense des droits humains. Voilà, comme depuis pas mal d'années sur l'antenne de Principes Actifs. Et pour animer l'émission ce soir, il y a Edith.
Bonsoir.
Et il y a Mina.
Eh oui, de retour pendant ma période de vacances sur Évreux, bien sûr. Non, je rigole. Je suis venue les aider un peu, mais ce sera
merci, Mina.
Ponctuel.
Pour aider qui, quand tu dis « les » pour les aider,
c'est le groupe d'Évreux.
Le groupe d'Évreux à animer les émissions, c'est ça. Donc, pas mal de sujets encore ce soir, hein, donc jusqu'à 20h, hein, on vous recommande de ne pas quitter l'antenne avant. Donc, on va vous parler de comment la France viole le principe de non-refoulement. On va vous parler aussi du dernier rapport d'Oxfam qui traite de l'augmentation de la pauvreté dans le monde et de ses conséquences sur le non-respect des droits humains. Et on va vous parler d'informations culturelles, etc., etc. Donc, plein de motifs pour continuer à nous écouter. Et pour commencer cette émission, on va la dédier, bien sûr. Vous n'êtes pas sans savoir que Robert Badinter, ancien avocat, ancien ministre de la Justice, est grande cause pour l'abolition de la peine de mort. C'est lui qui a permis que la France, en 1981, que la France, effectivement, supprime la peine de mort de son droit pénal, abolisse définitivement la peine de mort. Donc Robert Badinter, eh bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour la promotion des droits humains, qui a beaucoup compté aussi pour Amnesty, puisqu'il était militant et membre depuis très très longtemps. Et donc on va lui dédier cette émission, parce que c'est quelqu'un qui fait partie des gens qui rendent le monde meilleur, et il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est Mina qui va vous en parler, ah oui, plus que moi.
J'étais en train de me dire, mais t'as tout dit.
Mais non.
Effectivement, demain, ce n'est pas que la Saint-Valentin. Il y a aussi, malheureusement, l'hommage national à midi pour Robert Badinter. Cet ancien avocat et garde des Sceaux, Robert Badinter, est décédé dans la nuit du 8 au 9 février 2024 à l'âge de 95 ans. Ce fervent défenseur des droits humains a porté haut et fort l'abolition de la peine de mort en 1981, avant de se battre pour son abolition universelle et de nous rejoindre dans ce combat. Nous tenons à saluer la mémoire de cet infatigable militant pour les droits humains en général, et plus particulièrement pour l'abolition de la peine capitale qui aura été le combat de sa vie. Tout au long de sa vie, il aura incarné cette lutte pour le droit international et pour le respect des droits fondamentaux, à commencer par son opposition inlassable à cette peine inhumaine et insoutenable qu'est la peine de mort. Au travers de ses récits, de ses plaidoiries mémorables ou de ses discours, il n'aura jamais cessé de se battre pour cette cause. A réagi le président d'Amnesty France, Jean-Claude Samouillet. Monsieur Badinter avait rejoint le combat d'Amnesty dans ce vaste mouvement international représentant notre organisation à la Conférence internationale sur l'abolition de la peine de mort de Stockholm en 1977. Aujourd'hui encore, ce combat se poursuit et le nombre de pays ayant décidé d'en finir avec la peine capitale n'en finit pas de s'allonger. Pour la déclaration de Stockholm sur la peine de mort, en est sorti un texte fondateur pour l'abolition. Elle a été adoptée à l'issue d'une conférence internationale initiée par Amnesty et ce texte pose des bases du combat contre la peine de mort. En 1977, plus de 200 délégués et participants issus de tous les continents ont pour la première fois réussi à s'accorder sur des intentions et des objectifs communs. Vous pourrez trouver ce texte sur le site d'Amnesty. n'est-ce pas Didier ?
Tout à fait. C'est là que je l'ai récupéré pour ne rien vous te cacher.
Et je continue que je vous ai parlé de la déclaration de Stockholm. Cette justice d'élimination, cette justice d'angoisse et de mort décidée avec sa marge de hasard, nous la refusons. Nous la refusons parce qu'elle est pour nous l'anti-justice, parce qu'elle est la passion et la peur triomphant de la raison et de l'humanité. Parce que c'est... Je suis malade aussi, hein, excusez-moi. C'est ce qu'avait dit Robert Badinter à l'Assemblée nationale du 17 septembre 1981. Et effectivement, on est un peu dans les mêmes idées avec Amnesty par rapport à ce que je viens de dire, a dit Robert.
Oui.
Bah oui, c'est inhumain.
Oui, tout à fait.
On est bien d'accord.
Bah oui.
C'est pas parce que un meurtrier va être tué que le mal va s'arrêter.
Non.
Ça reste une vie humaine.
Ça ne changera pas.
Et hier, par contre, le Zimbabwe a annoncé une bonne nouvelle. Il annonce qu'il renonce à la peine de mort et pourrait devenir le 145e État à abolir cette pratique. Cette annonce n'aurait certainement eu lieu si le mouvement international pour l'abolition n'avait pas exercé une telle influence. Et ce mouvement n'aurait certainement pas été aussi important si un jeune avocat, infatigable et d'une détermination sans faille, devenu ministre de la Justice sous le premier mandat de François Mitterrand, n'avait réussi à convaincre la société française, encore plus, très largement hostile à cette idée, qu'il fallait en terminer avec la peine de mort. Et effectivement, on a eu la chance de voir que M. Barbella avait rachi par rapport à la mort de Robert Badinter, qu'il ne fallait pas l'encenser et tout ça. Donc effectivement,
de qui
la France...
De qui tu parles, j'ai pas
Bardella.
Compris. Ah oui.
Là, tu parlais un petit peu du nez. C'est vrai qu'on
a pas bien traduit. Moi, je suis malade.
Oui, elle a quelques soucis de santé.
On va faire la question. Il y a aussi un autre journaliste, mais je ne connais pas son nom.
Ouais, voilà. Non, ça, c'est voilà. Oui. C'est effectivement.
Effectivement, la peine de mort fait toujours débat à l'heure actuelle. Le 18 septembre 1981, il tient un discours devant l'Assemblée nationale qui restera dans les mémoires et dans l'histoire comme l'un des plus puissants jamais prononcés dans l'hémicycle. Il aboutira à l'adoption d'une loi qui entrera en vigueur le 10 octobre 1981. Seuls 35 pays avaient alors aboli la peine de mort. Droits des mineurs isolés en prison, conditions de détention, lutte contre la discrimination des homosexuels, Robert Badinter reste pour nous un exemple de détermination et de courage politique. À l'inverse de ceux qui s'engagent dans des politiques démagogiques au détriment de la dignité humaine, il nous a montré que celles fondées sur les droits fondamentaux pouvaient, au contraire, donner un sens plus noble à la politique et au final changer les opinions. À saluer notre président Amnesty France. Une petite pensée pour Sabine qui a fait des die-in au festival Le Rock dans tous ses états à Évreux. Je ne sais plus si Didier il s'est allongé avec elle aussi.
Oui.
Moi, je ne me suis pas allongée. Toi, tu t'es allongée,
Edith ? Non, mais moi, j'ai vu les photos après.
On était avec Sabine.
C'est des combats qui sont à l'origine d'Amnesty. Voilà,
On était avec Sabine dans tous les combats qu'on a fait au Festival Rock pour les droits humains, dont les die-in contre la peine de mort, bien sûr.
Mais il reste encore des pays, effectivement, qui utilisent ce droit pour certains crimes, et ça, c'est inadmissible. Oui. Et Didier, tu vas nous expliquer en plus, je pense.
Alors, je vais vous passer, c'est pas moi qui vais vous expliquer, mais je vais vous passer un son qui a été mis en ligne par Amnesty International France c'est très récemment, suite à la mort de Robert Badinter, et on va entendre qui résume effectivement son action par rapport à l'abolition de la peine de mort principalement, et on va entendre aussi la voix de Robert Badinter. On se retrouve juste après.
La mort du palais a été remplie d'une foule qui criait « À mort, à mort, à mort !» Le climat n'était pas bon.
L'année de la sortie du premier Star Wars en France, on guillotinait un dernier condamné à mort. Depuis, un long chemin a été parcouru dans le monde, et cela témoigne d'un formidable changement de société. La peine de mort est souvent utilisée pour faire taire les voix dissidentes. Pour beaucoup d'humains, manifester son opinion est encore un danger mortel. De plus, quand ce ne sont pas des innocents condamnés, les chiffres montrent que la peine de mort n'est pas dissuasive. Là où elle est abolie, la criminalité n'augmente pas. Alors pourquoi continuer de la pratiquer ?
Moi, je n'ai jamais vu un fils ou une fille de banquier américain dans les cellules des condamnés à mort. Mais les plus infortunés des Noirs des États-Unis, vous les comptez en nombre. Le racisme peuple les cellules de condamnés à mort. Et l'inégalité sociale, et l'inégalité culturelle, et l'inégalité de richesse entre les pays, tout cela joue. Et derrière le masque de la justice, en réalité, c'est tous les préjugés et c'est tous les poisons d'une société qui se libère.
Robert Badinter s'est battu pour que les États respectent la Déclaration universelle des droits de l'homme.
On ne peut pas se réclamer des droits de l'homme et avoir la privation de la vie, c'est-à-dire la première atteinte concevable aux droits de l'homme.
Il nous dit aussi que la peine de mort permet aux côtés les plus sombres d'une société d'agir à visage découvert et de perpétuer une culture marquée par la violence. Mais un nombre grandissant de pays a fait un autre choix, non pas se venger, mais rendre la justice. Alors c'est une grande victoire d'apprendre que les humains du Kazakhstan, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Sierra Leone et de République centrafricaine n'encourent plus la peine de mort, et que la Guinée équatoriale et la Zambie l'ont supprimée pour les crimes de droit commun. Votre mobilisation aux côtés d'Amnesty et la pression internationale marchent. Elle change des lois et elle change des vies. De 16 pays abolitionnistes, nous sommes aujourd'hui à 144, en droit ou en pratique.
La marche vers l'abolition universelle, elle se poursuivra et ça sera acquis. J'en suis sûr, je verrai pas, mais ça sera acquis.
On se bat ensemble, on gagne ensemble.
Voilà, c'était donc l'enregistrement qui a été mis en ligne par Amnesty International avec la voix de Robert Badinter. Bon, ça parle, c'est suffisamment éloquent, ça parle de soi. Et donc, après cet enregistrement et cette chronique consacrée à la mémoire de Robert Badinter, on va changer de sujet.
Oui, on va changer de sujet.
Edith qui va vous en parler.
Un tout petit peu moins gratifiant pour la France, hein, parce que là, c'était un moment important. Donc, moi, je vais vous expliquer comment la France viole le principe de non-refoulement. Alors, le principe de non-refoulement, c'est on ne peut pas renvoyer une personne dans un pays où elle risque sa vie, de la torture ou de mauvais traitements. C'est ça, le principe de non-refoulement. Un principe général en droit international, énoncé à l'article 33 de la Convention de 1951, relative au statut des réfugiés. Eh bien, en France, certaines personnes d'origine iranienne, syrienne, tchétchène, qui se sont réfugiés en France, vont peut-être être envoyés dans leur pays où ces personnes risquent le pire. Pourtant, la France procède aussi à ces expulsions ou à des tentatives d'expulsion vers ces pays à haut risque. Donc, il y a un petit rapport qui est sorti là dernièrement, et avec certains cas qui expliquent ce qui se passe. Et je voulais juste rappeler quand même qu'en novembre 2023, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a même outrepassé une interdiction d'expulsion prononcée par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc c'est quand même assez grave. On vous aurait l'exemple tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui se passe ? Expulsion vers la Russie. La France tente de renvoyer les Caucasiens du Nord, notamment des personnes tchétchènes, vers la Russie. Alors dans ce rapport d'Amnesty intitulé « Le point de non-retour » publié en janvier 2023, nous estimons à 60 le nombre de personnes qui risquent d'être expulsées. Nous connaissons la situation dans cette région. Ces personnes sont menacées si elles retournent en Russie. Malheureusement, il y a l'exemple d'un homme refoulé par la France en Russie qui a subi des actes de torture et qui est décédé en détention en 2022. Alors, ce qui se passe en plus, c'est que depuis l'attentat d'Arras, le 13 octobre 2023, c'est fait par un homme originaire du Caucase du Nord qui a poignardé un enseignant. La France a encore plus augmenté les gens pour qui il souhaite un retour vers la Russie. Alors Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty, note que cet attentat était atroce, c'était un crime abominable, mais cela ne doit pas servir de prétexte pour envoyer des personnes à qui on n'a rien reproché de façon factuelle, les renvoyer à la mort ou à la torture. Alors, il y a aussi des expulsions vers l'Iran. Les Iraniens et les Iraniennes qui cherchent refuge hors d'Iran sont considérées par les autorités de leur pays avec beaucoup de suspicion. Les risques qu'elles encourent en cas de refoulement vers l'Iran sont considérables. Mais malgré les risques encourus et la situation déplorable des droits humains en Iran, la France a tenté plusieurs fois d'expulser des personnes exilées iraniennes. Le 23 avril 2023, une Iranienne s'est vue notifier une obligation de quitter le territoire par la préfecture de l'Aude. Elle a été enfermée au centre de rétention administrative de Toulouse pour être expulsée vers l'Iran, en dépit des risques de persécution en cas de retour vers son pays d'origine. Heureusement, elle a finalement été libérée pour raison de santé. Alors le même ministre dont je viens vous parler, Gérald Darmanin, déclaré le 25 janvier 2023 devant le Sénat, « Je puis vous assurer que nous n'expulserons personne vers l'Iran ». Mais l'administration française continue à notifier des décisions d'expulsion vers l'Iran, mettant en danger la vie de ces personnes ainsi que celle des familles. Donc là, je vous ai parlé de la France, mais je voudrais faire un petit point sur deux pays.
Mayotte.
Mayotte, eh ben oui, effectivement, c'est la France aussi et c'est très compliqué. Ça, c'est l'actualité. C'est pas, voilà, on va dire que c'est pas pour expulser, mais c'est le droit du sol. C'est aussi quelque chose de très compliqué. Non, là, je reste sur l'Europe, Mina. Et deux pays d'un lequel on vous a déjà parlé, c'est l'Italie, qui, on vous avait parlé, il y avait un accord avec l'Albanie pour envoyer tous les demandeurs d'asile en Albanie. Eh bien, malheureusement, les choses ont l'air d'avancer au niveau des lois en Italie. Car détenir en Albanie des personnes exilées, secourues en mer par des bateaux italiens, cet accord migratoire nuisible et illégal est en passe d'être adopté. Ce 29 janvier 2024, la Cour constitutionnelle albanaise a approuvé le projet d'accord. Il prévoit la construction de deux centres en Albanie pour détenir les personnes secourues en mer. Alors, je vous explique ce qui pourrait se passer et qui malheureusement a l'air de se préparer. Une fois amenées dans les centres, toutes les personnes, notamment celles qui demandent l'asile, seront automatiquement placées en détention. Une détention automatique par nature arbitraire est illégale. En externalisant le traitement de l'asile en Albanie, pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne, l'Italie tente de contourner le droit international et le droit de l'Union européenne. C'est inacceptable. Un tel accord va fragiliser les conditions de vie des personnes exilées et porter atteinte, une fois encore, à leurs droits les plus fondamentaux. Donc là, vous notez Italie. Maintenant, Royaume-Uni. Bon, ils ne font plus partie de l'Europe, mais ils sont quand même à côté de nous, c'est nos voisins. Au Royaume-Uni, c'était ce projet de loi pour expulser les exilés au Rwanda. Alors, dans une nouvelle version du projet de loi approuvé par la Chambre des communes en janvier 2023, qui avait été jugé, on vous l'avait dit, illégal par la Cour suprême du Royaume-Uni, le gouvernement veut envoyer les personnes demandeuses d'asile au Rwanda, où leur demande sera traitée. Et alors, cerise sur le gâteau, ce que je n'avais pas tout à fait compris, c'est si le statut de réfugié leur est accordé, eh ben, ils devront rester au Rwanda. Ben oui, voilà, t'as raison, Mina. Mais bon,
oui,
moi, je pensais que c'était
temporaire. C'est ce que je dis à mon mari. En fait, ce qu'on a vu ce matin aux infos sur le droit du sol, c'est un principe de refoulement, c'est pas dit. Mais en fait, à partir du moment où tout de suite, dès qu'ils arrivent,
ils arrivent même pas dans le pays. Voilà.
Donc tu les refoules. Voilà. Effectivement, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de droit du sol, de problème de... ils vont avoir l'asile, ils vont avoir la nationalité française s'il la demande. Et en plus, il ne faut pas qu'ils reviennent dans le pays. Je ne sais plus pour quel pays, si c'est l'Italie. Parce que l'Australie, il fait déjà. Hein.
Tout petit peu de chance pour les États, le Royaume-Uni, c'est que le texte doit désormais passer devant la Chambre des Lords.
Oui.
On va espérer que ça va être bloqué.
Au Mais Royaume-Uni, pour l'Italie, apparemment, il y a débat là.
Donc, la situation des personnes qui demandent l'asile en Europe est quand même de plus en plus difficile.
Oui. C'est ce qu'il dit effectivement dans tous les rapports d'Amnesty, qui n'arrête pas de répéter que de toute façon les blocages des migrants et des réfugiés aux frontières européennes n'apportera jamais aucune solution, bien au contraire.
Ça me fait penser à Brassens.
Qu'est-ce qu'il chantait, Brassens ?
Toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon
c'est ça.
M'a donné quatre bouts de bois. Ah non, c'est plus d'actualité. Bon, bah... pas d'Auvergnat, alors. On ne chante plus de belles chansons comme ça.
On rappelle qu'on a déjà eu l'occasion d'apprécier la voix de Mina quand elle chante lors de précédentes émissions de radio. Et
oui,
comme
mais
tu
quand
viens...
même, tu te rends compte qu'on ne peut plus chanter
c'est ça.
Si on peut.
C'est ça.
Mais par rapport à la vision actuelle du monde, on est loin de tout ça.
T'as raison, mais bon, c'est bien pour ça que nos combats sont de plus en plus et nos actions sont de plus en plus importantes et fondamentaux. Et comme tu viens de chanter, ben on va enchaîner tout de suite sur la première pause musicale. En plus, c'est l'heure, la première pause musicale, et on se retrouve juste après.
Hush, not child. Might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be wet road ahead and you cannot slip, just move on up, for peace you'll find. Into the steeple of beautiful people where there's only one kind. So hush not, child, and don't. So keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey. You must be forsaken, but you can pass the test. Move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Just move on.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc on vient d'écouter, alors les morceaux musicaux que vous allez entendre ce soir pour illustrer l'émission ont été choisis par Mina. Et on vient d'entendre Curtis Mayfield, un morceau des années 70 qui s'appelle Move On Up. Et on va changer complètement de sujet encore une fois, et on va vous annoncer une bonne nouvelle, c'est Edith qui va vous le faire.
Oui, une bonne nouvelle qu'on avait vue à la dernière fois que je suis venue à la radio, donc ça fait un petit mois, et puis les copains, la dernière fois, ils n'en ont pas parlé. Alors moi, je dis, mais il faut absolument annoncer une bonne nouvelle. En plus, une bonne nouvelle qui se passe à côté de chez nous, Andorre, pas loin. Eh bien, c'est une jeune femme, Vanessa Mendoza Cortés, que je prononce bien. C'est une défenseure andorrane. Donc, pour les dames, on dit andorrane, je ne connaissais pas, du droit de l'avortement, et elle est acquittée. Et donc, on a eu des actions urgentes, on a fait signer pour cette jeune femme qui a été poursuivie par l'État andorran pour avoir critiqué l'interdiction totale de l'avortement dans le pays et défendu ce droit fondamental. Et le 17 janvier 2024, après une procédure judiciaire injuste et prolongée qui a duré plus de 4 ans, elle a finalement été acquittée. Alors c'est une victoire pour la défense des droits fondamentaux et en particulier le droit à la liberté d'expression et le droit à l'avortement. Les efforts concertés pour délégitimer le travail en faveur des droits sexuels et reproductifs, ici en Andorre, s'inscrivent dans une tendance mondiale marquée par l'intimidation, les agressions et la stigmatisation des défenseurs et défenseuses du droit à l'avortement. Alors, malheureusement, elle a été acquittée, mais le droit à l'avortement à Andorre est toujours aussi strict, c'est-à-dire même pas en cas de viol et même pas en cas d'inceste. C'est rien. Voilà, donc ça, c'est quand même aussi un tout petit état à côté de chez nous où il faudrait bien que les choses changent. Didier ?
Oui,
à toi.
À moi, c'est cela. Donc, je voulais vous parler déjà le mois dernier, mais on n'a pas eu le temps, d'un rapport qui n'est pas un rapport publié par Amnesty, mais qui a été publié par une ONG qu'on connaît bien, qui lutte contre les inégalités et la faim dans le monde, qui s'appelle Oxfam, et qui a publié, comme tous les ans au mois de janvier, l'état du monde au niveau des injustices économiques, financières, etc., etc., et leurs conséquences sur les droits humains. Et donc, parce qu'effectivement, c'est lié, hein, de toute manière, quand on parle de déséquilibre économique et financier et d'enrichissement de gens déjà très riches, ça a des conséquences sur les droits humains. Alors, juste pour vous rappeler ce que dit le droit international, juste deux petits articles très rapides qui sont tirés du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, son article 9. Les États parties au présent pacte donc reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, quand on voit le nombre de pays qui ne respectent pas ça. Et dans son article 11, les États parties au présent pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Voilà. Il n'est pas difficile non plus dans ce cas-là de voir à quel point c'est très mal, voire pas du tout respecté. Alors, qu'est-ce que dit ce rapport et quelles sont les conséquences en termes d'inégalité ? Eh bien, il dit que la fortune des 5 hommes les plus riches du monde a grimpé de 114% depuis 2020. La fortune des milliardaires a augmenté de 3300 milliards de dollars depuis 2020 à une vitesse 3 fois plus rapide que celle de l'inflation. Les 1% les plus riches, donc dans le monde, possèdent 48% de tous les actifs financiers mondiaux. Les pays riches du Nord, donc l'Europe, les États-Unis, etc. principalement, détiennent 69% des richesses mondiales et accueillent 74% des richesses des milliardaires, alors qu'ils n'abritent que 21% des richesses de la population mondiale. Au rythme actuel, il faudrait plus de 2 siècles pour mettre fin à la pauvreté, mais dans à peine 10 ans, nous pourrions voir pour la première fois, la fortune d'un multimilliardaire franchir le cap de, ouvrez bien vos oreilles, 1000 milliards de dollars. Avoir 1000 milliards de dollars, c'est comme gagner plus d'un million d'euros par jour depuis la naissance de Jésus-Christ. 7 des 10 plus grandes entreprises mondiales sont dirigées par un milliardaire. 148 grandes entreprises ont réalisé 1800 milliards de dollars de bénéfices cumulés, soit 52% de plus en moyenne sur les 3 dernières années, et distribué d'énormes dividendes à de riches actionnaires, tandis que des centaines de milliers de personnes ont été confrontées à des réductions de salaires réels. Depuis 2020, l'accroissement de la fortune des milliardaires et l'accumulation des profits des multinationales sont intrinsèquement liés. Les grandes entreprises ont un pouvoir démesuré et sont une machine à fabriquer des inégalités. Salaires qui augmentent moins que la rémunération des PDG, bénéfices majoritairement utilisés pour rémunérer les actionnaires, optimisation fiscale, les milliardaires veillent avant tout à ce que les multinationales contribuent à leur propre enrichissement au détriment du reste de la population. Et comme je vous disais au début, ça renvoie aux articles du pacte pour les droits économiques et sociaux. Ils utilisent par ailleurs leur richesse pour asseoir et conforter leur influence politique, en particulier via leur entreprise sur les médias et leurs relations avec les hautes sphères de l'État. Et là aussi, ça a des conséquences très négatives en termes du respect des libertés, ne serait-ce que des libertés de la presse, et ça on le voit aussi dans des pays comme la France. Alors, tiré effectivement aussi du rapport, je ne vais pas tout vous les lire, mais j'ai sélectionné quelques extraits. Alors, des multinationales et les entreprises privées, certaines d'entre elles tirent profit de centaines d'années de colonialisme dont l'héritage se perpétue encore aujourd'hui. Les groupes racisés sont moins susceptibles de posséder les entreprises. Aux États-Unis, 89% des actions sont détenues par des personnes blanches, 1% par des personnes noires et 0,5% par des personnes hispaniques. En 2022, en Afrique du Sud, seuls 39% des sociétés cotées à la bourse de Johannesburg étaient contrôlées par des personnes noires. De la même manière, au niveau mondial, seule une entreprise sur trois est détenue par des femmes. Donc, un autre aspect de conséquence pour l'atteinte aux droits dû à cet enrichissement sans limite des personnes déjà les plus riches et des sociétés les plus riches, les atteintes aux droits à la santé. Alors voilà ce que dit le rapport. Les grands monopoles pharmaceutiques font main basse sur la concurrence et invoquent les règles de propriété intellectuelle alors même que l'innovation est largement financée par des fonds publics. Par exemple, aux États-Unis, chaque nouveau médicament approuvé a bénéficié de financements publics entre 2010 et 2019. Ce modèle donne la priorité aux médicaments très rentables, ce qui rend l'accès difficile et conduit les entreprises à délaisser les vaccins, les traitements et les tests dont les populations des pays les plus pauvres ont besoin. Par exemple, Gilead a acheté, c'est un laboratoire américain, a acheté le sofosbuvir, un médicament utilisé dans le traitement de l'hépatite C, et développé grâce à d'importants fonds publics américains. Puis, il a triplé son prix pour le porter à 100 000 dollars par patient, le mettant ainsi pratiquement hors de portée de celles et ceux qui en ont le plus besoin. En plus d'être palpable, le pouvoir des monopoles peut aussi s'avérer meurtrier. Au moins 1,3 million de vies supplémentaires auraient pu être sauvées si l'accès au vaccin contre le Covid-19 avait été plus généralisé pendant la pandémie. Ça avait fait l'objet aussi à l'époque d'un rapport d'Amnesty. Les pays à faible revenu auraient notamment pu connaître des taux de mortalité plus faibles. Alors que les fonds publics ont joué un rôle essentiel dans la création de ces vaccins, ces derniers ont été monopolisés par les grandes sociétés pharmaceutiques et protégés de manière agressive par des règles de commerce mondial. Le pouvoir monopolistique reprend ainsi un schéma néocolonial et prive les pays du Sud des vaccins disponibles dans les pays riches. Bien, ça a des conséquences aussi, alors je ne vais pas encore une fois tout vous lire, mais ça a des conséquences aussi, bien évidemment, cet enrichissement sans limite des gens déjà les plus riches et des sociétés les plus riches. Ça a des conséquences dramatiques sur les droits des travailleurs et sur les droits des salariés, effectivement, y compris dans leurs conditions de travail. Et parmi les gens qui sont les plus riches, le rapport cite la situation personnelle. Alors, le temps que je retrouve ma petite feuille.
Ah, une petite feuille qui s'est cachée. Mais non, elle arrive.
La situation personnelle de quelqu'un que je pense tout le monde connaît, qui s'appelle Jeff Bezos.
Qui est donc, je ne sais pas qui c'est.
Qui est le PDG d'Amazon, qui est l'un des hommes les plus riches du monde. Et dans le rapport, il est expliqué que sa fortune a augmenté de 32,7 milliards de dollars depuis 2020. Pour atteindre 167,4 milliards de dollars. C'est des sommes qui sont
c'est même pas envisageable.
Le rapport rappelle aussi que M. Bezos a effectué un vol spatial qui lui a coûté 5,5 milliards de dollars. Et il a remercié le personnel d'Amazon d'avoir rendu cela possible. Et dans la chronique qui est le mensuel d'Amnesty, la chronique qui est parue au mois de novembre ou décembre, je ne sais plus, décembre. Et il y a un petit article, alors que je ne vais pas vous lire non plus, mais qui s'appelle « Les clés du succès » et qui cite effectivement Amazon et l'enrichissement de son PDG en rappelant que les conditions de travail des succursales d'Amazon en Arabie Saoudite sont absolument déplorables, avec des retenues sur salaire, des conditions de travail innommables et des interdictions de quitter son poste ou même de quitter la société. Voilà. Alors quand on parle d'enrichissement effectivement de personnages comme lui, ça a des conséquences, encore une fois, en termes de droits humains, droits du travail et sur des conséquences absolument désastreuses. Alors, juste pour finir rapidement, Oxfam appelle les États, dans ses préconisations, dans ce rapport, à réduire rapidement et radicalement le fossé entre les ultra-riches et le reste de la société grâce notamment aux mesures suivantes. Augmenter les impôts des ultra-riches, ça paraît tomber sous le sens, il faut bien financer les États. Oxfam estime aussi qu'un impôt sur la fortune pour les multimilliardaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1 800 milliards de dollars par an. Plus précisément, Oxfam France formule une série de recommandations fiscales qui permettraient de dégager 88 milliards d'euros par an en France, tout en préservant le pouvoir d'achat de 70% des Français. Voilà, donc ça c'est une partie aussi des préconisations, il y en a d'autres. Donc je vous renvoie effectivement sur le rapport complet de Oxfam, qui fait pas mal de pages, mais ça vaut le coup de prendre le temps de le lire, et qui est disponible sur leur site, qui est oxfamfrance.org, si je ne m'abuse. Ça doit être ça, oxfamfrance.org. Enfin, vous trouverez facilement, vous tapez Oxfam sur un moteur de recherche et vous trouverez facilement. Voilà.
Merci Didier.
Oui, ouais, c'est vraiment une différence. Il y en a qui augmentent, il y en a qui gagnent, il y en a qui multiplient, il y en a qui perdent et qui descendent.
Voilà, et quand on voit, je conclurai là-dessus, quand on voit, donc, comme je disais au début, que la fortune de certaines personnes est équivalente à gagner 1 million de dollars par jour depuis la naissance de Jésus-Christ, ça fait quand même froid dans le dos. Voilà. Je ne sais plus où on en est par rapport au conducteur.
C'était Edith.
Une petite respiration. On peut parler un peu parce que ton rapport, quand même.
Sinon, j'en fais une petite bonne nouvelle.
Allez, une petite bonne nouvelle.
Qu'est-ce qui se passe en France? Les sages disent non. Ah oui, ça c'est bien. Vous allez entendre. Éric Dupond-Moretti. Qu'est-ce qui se passe avec Éric? Activer un téléphone portable à distance pour capter images et sons sans que son utilisateur le sache. Éric Dupond-Moretti en rêvait. Le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Oh, dommage. Le ministère de la Justice espérait ainsi accroître la surveillance des personnes suspectées de crimes ou de délits punis d'au moins 5 ans de prison. Mais les sages ont estimé que cette mesure constitue une atteinte particulièrement importante au droit au respect de la vie privée et qu'elle n'était pas proportionnée à l'objectif poursuivi.
Eh bien, merci Mina.
De rien.
Eh bien, je crois que Didier, à la dernière radio, tu as beaucoup parlé de la situation Gaza, Israël, Palestine.
Tout à fait.
Alors,
Vous pouvez réécouter le podcast.
Voilà, ben bien sûr. Alors, je rajoute une petite nouvelle, effectivement. Enfin, une petite nouvelle, non. Quand je dis ça, c'est parce que ça va pas être très, très long au niveau de la nouvelle. Mais vous avez dû entendre que des États doivent revenir sur leur décision cruelle de suspendre les financements destinés à l'UNRWA. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, moi, je vais dire l'UNRWA parce que je sais pas trop prononcer. C'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés et les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Alors, c'est l'office qui est au cœur de la distribution de l'aide humanitaire aux civils de la bande de Gaza. Alors, cet office, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a 9 personnes qui ont été licenciées à la suite d'allégations selon lesquelles 12 membres du personnel de l'UNRWA auraient été impliqués dans les attaques perpétrées par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Alors, une annonce immédiatement suivie de la suspension de ces personnes. Mais ce qui est arrivé, c'est que le financement, c'est aussi la suspension du financement de 11 pays donateurs, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Japon. Alors, la décision d'au moins 11 pays donateurs de suspendre le financement va porter un coup dévastateur à plus de 2 millions de réfugiés de la bande de Gaza occupée, pour lesquels cette organisation est la seule bouée de sauvetage, a déclaré Amnesty. Donc, il est profondément choquant, inhumain, à vrai dire, que plusieurs gouvernements aient pris ces décisions qui vont aggraver les souffrances de ces personnes, déjà confrontées au risque d'un génocide et d'une famine artificielle, quelques jours seulement après l'arrêt rendu par la Cour internationale de justice, dont Didier vous a parlé à la dernière radio, qui a conclu que la survie des Palestiniens de Gaza était menacée. Alors, Agnès Calmar, la secrétaire internationale d'Amnesty, dit qu'il faut quand même aussi complètement relativiser, car ces mesures ont été prises pour 12 employés de l'UNRWA, alors qu'il y en a 30 000. Alors elle continue, les allégations concernant l'implication de membres du personnel de l'UNRWA dans les attaques du 7 octobre sont sérieuses et doivent absolument donner lieu à une enquête indépendante. Toute personne contre laquelle il existe des preuves suffisantes et recevables doit être poursuivie dans le cadre d'une procédure équitable. Mais les agissements présumés de quelques individus ne doivent pas servir de prétexte à la suppression d'une aide vitale qui pourrait s'apparenter à un châtiment collectif. Alors, en fin de compte, en plus, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Japon, la Finlande, les États-Unis, l'Australie et le Canada, ça représente plus que la moitié du financement du budget de l'UNRWA. Donc, vous voyez, c'est absolument très, très grave, quoi. Et l'UNRWA, c'est un rôle vital pour les milliers de Palestiniens. C'est depuis longtemps l'unique lueur d'espoir proposant aide humanitaire, éducation et logement dont ces personnes ont tant besoin. Cet organisme fournit également une aide indispensable à des milliers d'autres réfugiés palestiniens vivant dans les pays arabes voisins. Alors d'autres pays ont été beaucoup plus sages. La Norvège, l'Espagne, l'Irlande et la Belgique font partie des États ayant annoncé qu'ils ne suspendraient pas leur financement, reconnaissant là le rôle vital de l'UNRWA et qui continue à jouer dans la distribution de l'aide humanitaire à ceux et celles qui en ont désespérément besoin. Alors en plus, il y a quand même quelque chose un peu, on va dire, un peu comme le rapport d'Oxfam, deux poids, deux mesures. Agnès Calmar, toujours la secrétaire générale d'Amnesty, note « Certains des gouvernements ayant annoncé qu'ils allaient supprimer les fonds destinés à l'UNRWA en raison des allégations dont je viens de vous parler, ont en même temps continué à armer les forces israéliennes, malgré les preuves accablante que ces armes sont utilisées pour commettre des crimes de guerre et de graves violations des droits humains. S'empresser de geler des fonds destinés à une aide humanitaire sur la base d'allégations faisant encore l'objet d'une enquête, tout en refusant d'envisager de suspendre le soutien à l'armée israélienne est un exemple saisissant de deux poids deux mesures. Et on peut aussi noter dans l'autre sens qu'en Israël, l'État d'Israël, quand même très, on va dire, très droite hein, au niveau de l'option politique. Et les groupes de droite de ce pays mènent depuis des années une campagne de dénigrement contre l'UNRWA qui joue un rôle clé dans la protection des droits des Palestiniens et des Palestiniennes. Donc voilà, voilà où ça en est. Et là aussi, on se dit que c'est un engrenage terrible pour ce peuple.
Merci Edith. Et effectivement, oui, ça fait suite à ce que j'avais dit à la dernière émission, mais on rappellera jamais assez qu'effectivement, ce principe de deux poids, deux mesures entre le traitement de la situation des droits fondamentaux des Israéliens et des droits fondamentaux des Palestiniens, qui ne sont pas du tout traités de la même façon, c'est une évidence, ce deux poids, deux mesures est effectivement tout à fait intolérable et on ne le répétera jamais assez. Et Amnesty continue à juste titre de réclamer dans un premier temps par rapport à ce qui se passe là-bas un cessez-le-feu
immédiat. Je vous ai pas tout lu, mais effectivement Agnès Calmar dit mais il ferait mieux de faire pression pour qu'il y ait ce cessez-feu. Tous ces pays qui. Je suis désolée, je ne sais pas la position de la France. Et j'ai pas été le chercher, j'ai regardé, puis après.
Sauf erreur,
qu'elle est un peu neutre, ils ont rien.
Enfin, je crois que la France avait dit qu'elle allait suspendre ses paiements pour l'instant, mais je ne sais pas où ça en est.
Ceux qui le savent, vous nous mettez un petit mail, et puis voilà.
Et puis, on ne peut qu'encourager toutes celles et tous ceux qui nous écoutent à aller signer les pétitions sur le site d'Amnesty qui sont consacrées, effectivement, à cette demande pour établir un cessez-le-feu immédiat. Voilà. On va passer à la seconde pause musicale, et on se retrouve juste après.
Somewhere over the rainbow. star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la troisième et dernière partie de son émission. On vient d'entendre Judy Garland, une très vieille chanson qui s'appelle Over the Rainbow. Et c'est toujours un choix qui a été fait par Mina.
Merci Mina, ça
oui,
change
mais
un
pourquoi
peu.
C'est pas très intéressant de dire une très vieille chanson.
Pourquoi?
Bah oui,
parce que c'est un classique.
L'intérêt
si
à un classique.
Un classique.
C'est plus, parce que
d'accord.
Le texte est toujours d'actualité.
D'accord.
Parce que même si nos droits humains sont bafoués, toujours au-dessus, des fois, il y a de l'espoir dans le ciel bleu, au-dessus de l'arc-en-ciel, Didier.
D'accord. Okay.
Merci,
de
Didier.
Sélénoise, il y a le soleil. Voilà,
et,
Mina.
Et justement,
ouais.
Mina, tu gardes la parole, puisque c'est maintenant l'heure
Mina,
des informations
de positif,
culturelles, si je ne
oui,
m'abuse.
Oui, la rubrique culturelle. Pour vous dire que dimanche, le groupe de Rouen Amnesty organise un ciné-débat au cinéma Omnia du film We Are Coming. Les coordonnées, vous pouvez les trouver sur le site d'Amnesty si vous avez des renseignements. Alors, le film, il est de qui ? De Nina Faure. Ce documentaire filmé en cinéma direct est le témoin d'une époque. La réalisatrice commence à filmer quelques discussions avec ses amis en 2014, au moment où elles prennent conscience des lacunes médicales autour de l'anatomie du clitoris. We Are Coming est le témoin d'une décennie de lutte, autant qu'il porte l'espoir d'une transformation réelle. C'est un objet cinématographique rare qui conjugue le cinéma de l'intime et la chronique sociale avec un regard personnel parfois drôle, parfois émouvant, sur une des luttes les plus importantes de notre époque. Une nouvelle génération politise les enjeux autour du corps, de la sexualité et des rapports de genre. Pour deux amies, Nina et Elena, cela commence par une prise de conscience. Avec quelques autres, elles se demandent pourquoi, dans une société qui prétend que l'égalité des sexes est déjà là, l'accès au plaisir est si difficile. Elles organisent des groupes de parole, découvrent notre corps, nous-mêmes, un manuel féministe historique qui leur ouvre de nouvelles portes d'analyse. Elles vont à la rencontre d'enseignantes, éducatrices, sociologues pour tracer pas à pas ce qui finira par être un vrai plan d'attaque. De plus en plus impliquées dans les luttes qui se soulèvent partout, au cœur de ce mouvement féministe qui déferle, elles découvrent un plaisir jusqu'ici insoupçonné, celui de poursuivre une émancipation collective, le plaisir d'abolir le patriarcat, tout simplement. Les thématiques abordées dans ce documentaire résonnent avec notre engagement de lutter pour les droits des femmes et la justice de genre. Ce film met en lumière, à travers un récit à la fois intime et collectif, la montée en puissance d'une des luttes les plus importantes de notre époque pour faire face aux injustices, aux discriminations et aux violences liées au genre, le mouvement féministe. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez du temps, et essayez de vous renseigner assez vite, pour voir s'il reste des places.
Mina, il y a aussi le 16 et le 17, c'est 3 jours le festival à l'OMIA.
Là, et là, bah, c'est parce que on va écrire à Paris et on va leur dire que dans la chronique...
Ils ont mis en vedette un film, mais c'est le 16... Alors j'avoue qu'on a regardé le...
Oui, mais est-ce qu'il y aura Ciné Débat le 16 et le 17?
Je ne pense pas. Je pense que c'est des petits films, des courts-métrages.
C'est un festival de films sur les droits des femmes, effectivement, organisé par les groupes d'Amnesty Rouen.
D'Amnesty Rouen, donc nos amis, au-dessus, là, de la région.
Alors, encore plus d'infos, alors.
Oui. Ben, on a eu la feuille, et effectivement, moi, je n'avais même pas vu que ça avait été dans la chronique.
Donc, dans le cadre du festival autour des femmes, il y aura le film We Are Coming. Mais ça veut dire que le 16 et le 17, il y a d'autres films.
Allez voir le programme de l'OMIA.
Alors, n'hésitez surtout pas à contacter mauchard@hotmail.fr, c'est son adresse email.
Faut mieux faire l'OMIA, à mon avis. Le programme de l'OMIA, Rouen, oui, ça sera plus simple.
Bon, enfin, voilà.
C'est une des responsables du groupe de Rouen, effectivement, qui sont organisateurs et organisatrices de ce festival qui dure 2 ou 3 jours, je ne sais plus, 3 jours, je crois.
Ben, je te dis, vendredi, 16, samedi, 17 et 18.
C'est ça,
vendredi, voilà, samedi. Et toi, tu parles du
vendredi,
film,
samedi, dimanche.
Qui est le 18.
C'est ça.
Donc, dans la suite de la rubrique culturelle engagée... vous n'êtes pas sans savoir que Ginette Kolinka, rescapée d'Auschwitz-Birkenau, est venue au collège Polisaire rencontrer une classe de 3e pour parler de sa vie, de sa détention dans le camp de concentration. Et j'en profite du coup pour vous dire qu'une dernière BD sur son histoire est sortie. Elle s'appelle « Adieu Birkenau, l'histoire de Ginette Kolinka, survivante d'Auschwitz » aux éditions Albin Michel. Et avant celle-là, il y avait cette BD-là. Il y a une autre BD qui est sortie, justement d'une élève qui avait rencontré Madame Kolinka. Et... s'appelle « Récit d'une rescapée d'Auschwitz » d'Aurore Donte. Et l'autre BD, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal avec ma toux. Je retrouverai, il y a plusieurs auteurs. En fait, ils ont accompagné Ginette, pour celle que je vous ai dit, « Adieu Birkenau, l'histoire de Ginette ». Il y a un des auteurs qui retranscrit justement une sorte de mémoire de ces camps, qui l'a accompagné justement au camp de Birkenau à Auschwitz. Donc n'hésitez pas à aller la lire aux éditions Albin Michel. Pour revenir sur Badinter, vu que demain c'est l'hommage national,
oui.
Il y a eu une BD qui est sortie il y a quelques années, qui est très bien faite, une adaptation du roman de Marie-Gloris Bardiot-Vaillant, « L'abolition ». Elle est sortie chez Glénat. Et au niveau du dessin, c'est Malo Kerfrinden. Donc, n'hésitez pas non plus à le lire.
Voilà. Puis l'autre fois, j'ai pas le titre en tête. Je vous ai parlé d'une BD parce que t'étais pas là, Mina. Alors attends, t'es pas là, je
oui,
parle aussi.
Vous m'avez
un
piqué
peu
ma rubrique, quoi.
Sur une jeune femme qui avait fait des rencontres, enfin des lettres avec un condamné à mort américain. Il y a une BD qui est sortie. Tu as dû voir ça dans une dernière chronique. Donc voilà, c'est la peine de mort. C'est pas Badinter,
oui,
mais c'est...
Il a une tête... Je ne l'ai pas lu encore, celui-là.
Voilà. Ben, Mina vous en parle la prochaine fois. Elle le lit. Moi, je n'ai juste vu que le texte
il
dans la chronique.
Il y a longtemps, celui-là.
Je ne sais plus. Je te montrerai, tu me diras. Voilà, donc cherchez. Il y a plein aussi...
Je l'ai offert, mais je ne l'ai pas lu.
De lectures qui sont intéressantes à faire autour de la peine de mort. Et c'est vrai que la BD est un style de lecture qui est tout à fait partageable facilement.
Pourtant, Mina, tu dois être la plus compétente sur les parutions de bande dessinée.
Tu veux que je te raconte ma vie?
Non.
Mina,
non,
c'est pas BD.
Alors,
tu me la raconteras, en dehors du micro.
C'est pas très droits humains, mais c'est très vieux ou très classique, comme on dirait, et très révélateur de notre société. J'ai commencé à lire Première mesure, Deuxième mesure de Petit Luc, et c'est que un monde de rats et qui vit dans où il y a les déchets, là.
Les
favelas.
Non, les trucs, les ordures.
Les ordures,
quoi,
ouais.
Je sais plus comment on
dit
ça.
Les décharges.
Voilà. Et ils voient un peu la société. Il y a des rapports philosophiques. Donc, voilà mes lectures du moment, ou Delphine Horviller, ou... voilà, c'est autre chose sur l'identité.
Bon.
Est-ce qu'on doit s'arrêter à notre identité? Est-ce qu'on doit rester...
C'est une vaste question.
Dans cette case de l'identité qu'on nous a donnée à la naissance.
Nina va bientôt se...
Qu'est-ce qu'un humain ?
Tenir une émission.
Puis choisir mon identité ? Voilà.
Bon. Bah, comme sujet du bac, vous avez 4 heures pour répondre à la question. Voilà. Et donc, non, je disais ça parce que Mina est très certainement au niveau de notre groupe, au niveau du groupe d'Evreux d'Amnesty, est certainement la personne qui, de loin, lit le plus de bandes dessinées. Donc, c'était pour ça.
Elle a retrouvé le nom.
J'ai retrouvé l'article de la BD. Donc, c'est, merci, je vous Didier. Le redis, Perpendiculaire au soleil de Valentine Cuny,
oui, oui.
Le Calais, aux éditions Delcourt Ancrage. Et Mina avait vu la couverture.
Oui, c'est un plus, c'est voilà. La BD à lire.
Voilà.
Bien, et on s'approche tout doucement du terme de l'émission. Au niveau de...
Heureusement que tu es là, Didier, pour nous ramener quand on se met à bavarder, BD.
Non, mais c'est bien aussi de bavarder, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Puis c'est bien de parler de sujets qui sont un peu plus souriants aussi que des informations dramatiques qui malheureusement trop souvent constituent les plats de résistance de nos émissions, mais on n'a pas le choix.
Localement, qu'est-ce que tu vas nous dire?
Alors localement, bah, notre actualité, on a des actions en préparation, mais notre actualité, c'est, pour l'instant, ce sont nos émissions de radio.
D'accord.
Donc on se retrouve le mardi 27 février pour les prochaines émissions d'Amnesty, de 19h à 20h en direct sur les antennes de Principe Actif. Donc 102.4 FM à Évreux et 95.9 dans le sud du département. Voilà. Et puis également, on vous rappelle que toutes nos émissions, depuis très très longtemps, sont mises en podcast sur le site de la radio, donc principactif.net, rubrique Amnesty. N'hésitez pas à réécouter tout ou partie de certaines émissions que vous auriez pu manquer.
Voilà, et puis allez voir sur le site d'Amnesty, allez signer, c'est très facile.
Oui, allez signer les pétitions. Allez participer aux actions, c'est important, effectivement.
Voilà. Et venez, mettez-nous des petits mails, venez nous voir. On est toujours contents d'avoir des gens qui veulent se renseigner auprès d'Amnesty.
Voilà, on rappelle que le groupe d'Evreux, c'est un groupe de militants bénévoles, bien évidemment. Et on vous rappelle notre adresse mail, si vous voulez prendre contact avec nous, c'est evreux@amnestyfrance, Amnesty avec un Y et France tout attaché, .fr, evreux@amnestyfrance.fr. N'hésitez pas, effectivement. Et n'hésitez pas à continuer à vous investir et à être vigilant par rapport à la promotion et la défense des droits humains, parce que l'actualité en ce moment est très chargée et l'horizon n'est pas au beau fixe par rapport aux évolutions nationales ou internationales. Et il ne faut rien lâcher, effectivement. On va laisser l'antenne au laboratoire, donc, qui va prendre la suite de la soirée sur l'antenne de Principe Actif. Et nous, on se retrouve le 27 février.
Eh bien, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir à tout le monde.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.